Bonjour chers auditeurs, Henri de Villiers au micro de Radio Courtoisie. Bienvenue dans cette émission consacrée, comme chaque dimanche, à la liturgie et à la musique sacrée. Nous sommes le dimanche 5 juillet et normalement en France, aujourd'hui, se fait la solennité d'une fête qui a eu lieu en début de semaine, le 29 juin, à savoir la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église qui sont toujours fêtées ensemble dans la liturgie romaine. Alors, il se trouve que cette fête était autrefois jour chômé en France et que Napoléon, fâché de trouver autant de jours de repos pour notre pays, avait exigé et obtenu du pape une réduction des fêtes d'obligation en France. Et donc, certaines fêtes sont restées chômées, comme Noël, bien sûr, ou l'Ascension. Mais la Saint-Pierre-Saint-Paul n'a pas échappé au productivisme napoléonien. Et lorsque le décret du cardinal Caprara paraît en 1802, eh bien, elle fait partie de ces fêtes qui, en France, sont obligatoirement reportées au dimanche qui suit. Alors, cette année, l'écart est maximal, puisque la fête tombe un lundi, et donc le dimanche 5 juillet voit la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ce qui fait que si, dans votre paroisse, vous avez chanté les vêpres dimanche dernier, c'était les premières vêpres de Saint-Pierre-Saint-Paul, et vous chantez la messe que ce dimanche, donc presque 8 jours après. Toujours est-il que c'est une très belle fête, évidemment, et que j'ai choisi, pour l'illustrer aujourd'hui, de piocher dans le répertoire de la Renaissance, si riche de messes intitulées « Missa tuis Petrus »,« Messe tu es Pierre », du nom d'une des parties du propre de ce jour, qui est aussi une antienne de l'office et qui est tout simplement les paroles du Christ à Saint-Pierre. « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». La messe que j'ai fini par retenir aujourd'hui n'est pas celle bien fameuse et bien connue de Palestrina, peut-être qu'on l'écoutera une autre année, mais celle d'un compositeur moins connu qui s'appelle Jean Mouton. Alors, l'importance historique de Jean Mouton ne saute pas a priori aux yeux, mais pourtant, dans l'histoire de la musique, ce compositeur bien oublié a été sans doute un maillon fondamental pour la transmission du savoir du contrepoint et le passage de ce savoir aux générations suivantes après un travail intense de perfectionnement, on va dire, de ce contrepoint de la fin de la Renaissance, du début de la Renaissance, plutôt de la fin du Moyen-Âge. Alors Jean Mouton, il n'y a que des œuvres qui sont des motets de Noël qui sont les plus connus, mais on va essayer de découvrir un peu plus de musique de ce compositeur cet après-midi. Alors Jean Mouton, c'est semble-t-il un sobriquet peut-être donné par ses camarades chantres, puisque de son vrai nom il s'appelle Jean de Holingue. Il naît vers 1459, donc à peu près au milieu du XVe siècle, dans la petite ville de Samé, en Picardie. Et il va étudier la musique en entrant enfant pour chanter dans le chœur de Saint-Quentin, où il se retrouve avec Josquin des Prés, qui va être un ami pendant toute sa vie. Et il va devenir même plus tard, en grandissant, le magister puerorum, le maître des enfants, sous-entendu des enfants de chœur qui chantent réellement. Hein, ce ne sont pas que des petits enfants qui servent la messe, mais ils chantent réellement tout l'office divin. Eh bien, à Saint-Quentin. De là, il va commencer à faire ce qu'on va appeler par la suite le vicariat, c'est-à-dire ce fait que les chantres se déplacent, se baladent et aillent de lieu en lieu. Il va vicarier, il va aller occuper un poste de chantre à Nesle, c'est une ville entre Amiens et Saint-Quentin. Il y entre en 1477, il devient le maître de chapelle en 1483, et on sait qu'à cette date, il est déjà prêtre, donc on peut estimer qu'il avait passé l'âge de 25 ans, puisque c'était l'âge requis par les canons pour pouvoir recevoir l'ordination presbytérale. Dans les années 1490, on le suit un peu à la trace, on le voit à Saint-Omer. Vers 1500, il dirige les enfants du chœur de la cathédrale d'Amiens. Voilà, donc c'est un simple représentant jusqu'à présent de ces maîtres de chapelle des cathédrales de province, de Picardie et de Flandre, ce qu'on a appelé plus tard l'école franco-flamande de polyphonie. Et son destin va changer, parce que tout d'un coup, il quitte son pays, et en 1501, il accepte un poste à la collégiale Saint-André de Grenoble, un lieu qui a toujours été dans son histoire particulièrement attentif à la qualité de la musique sacrée, encore aujourd'hui. Et donc, il quitte les terres de Picardie pour aller aux portes des Alpes. Mais il n'y reste que très peu de temps, puisque dès l'année d'après, eh bien, le voici au service d'Anne de Bretagne. Alors, il abandonne son poste, à vrai dire, et on imagine, parce que évidemment on n'a pas de récit pour authentifier cela, mais on imagine qu'en fait Anne de Bretagne est passée à Grenoble durant l'été 1502 et probablement qu'elle a rencontré ou elle a entendu la sublime musique faite par Jean Mouton et qu'elle l'a débauché en fait pour le prendre à son service. De là, il quitte ce rôle de simple petit maître de chapelle de province pour passer dans une institution plus prestigieuse, une institution ducale et royale, puisqu'il va rester au service d'Anne de Bretagne pendant 25 ans. Et c'est un poste prestigieux, évidemment, surtout qu'elle devient reine de France, et donc le voici également à la chapelle royale. Et lorsqu'Anne de Bretagne meurt, eh bien, il continue à servir le roi de France Louis XII. Et par la suite, il va entrer au service de son gendre et successeur, à savoir François Ier, puisque François Ier fait partie d'une branche cadette des Valois, les Valois-Angoulême. Il a épousé Claude de France, la fille de Louis XII. Évidemment, cette position à la cour de France va lui donner une stature internationale, aussi parce que son grand ami d'enfance, Josquin des Prés, qui lui a fait la démarche fréquente des maîtres de chapelle de l'école franco-flamande, c'est-à-dire d'aller en Italie, eh bien, Josquin des Prés popularise en Italie la musique de Jean Mouton. Alors Josquin est parti à Milan, au Dôme de Milan. Et aussi, il y a un autre fait qui va expliquer la grande popularité de la musique de Jean Mouton en Italie. Eh bien, c'est François Ier, tout simplement, puisque en 1515, il y a la fameuse bataille de Marignan, bien sûr. François Ier entend faire valoir ses droits sur le duché de Milan et l'attribuer à la France. Et lors de la paix de Bologne, eh bien, c'est Jean Mouton qui va composer la musique des offices qui sont célébrées pour ces différentes journées de rencontres diplomatiques pour signer cette paix. Et donc, c'est aussi une occasion pour lui de diffuser sa musique bien au-delà de la sphère de la Chapelle royale de France. Et sa musique va passer, on le sait, va être diffusée aussi bien à la cour du duc de Ferrare, une éminente cour protectrice des arts et en particulier de la musique à cette époque, et également à Rome auprès du pape ou à Venise. Ce qui fait que, avec Josquin des Prés, au début du XVIe siècle, Jean Mouton est l'auteur le plus copié dans toute l'Europe et particulièrement en Italie. Et par la suite, sera l'un des premiers auteurs à être aussi largement diffusé par l'imprimerie. Voilà, alors parlons encore un peu de Jean Mouton. Il a, comme tous les compositeurs de son temps, accumulé toutes sortes de bénéfices ecclésiastiques, puisqu'on le rétribuait, il est prêtre, hein, il est abbé, on le rétribuait de fonctions de chanoine, de recteur et d'autres charges analogues. Ces charges lui procuraient des revenus substantiels sur lesquels il fallait quand même prélever les émoluments des vicaires chargés de remplir son office à sa place. Donc, il a été entre autres chanoine de Saint-André de Grenoble, de Saint-Quentin et de Thérouanne. À sa mort en 1522, il fut enseveli à Saint-Quentin, où avait été également enterré quelques années auparavant Loyser Compère, autre compositeur de cette école franco-flamande. Et sur son trombeau est inscrit l'épitaphe suivante: en son vivant, chantre du roi, chanoine de Thérouanne et de cette église de Saint-Quentin. Alors, parmi les élèves de Jean Mouton, notons simplement l'un d'entre eux, Adrien Villaert, qui fut une figure marquante de la génération qui a suivi celle de Jean Mouton et qui va diriger pendant 35 ans la musique de la basilique Saint-Marc de Venise. Et c'est dans cette basilique en particulier qu'est mise en œuvre la technique des cori spezzati, des chœurs brisés, avec des chœurs qui se répondent, ce qu'on a appelé la musique polychorale. Et on estime que la musique de Jean Mouton contient déjà les prémices de cette polychoralité qu'on va retrouver développée par la suite par Adrien Villaert et par les Gabrielli qui vont être la génération suivante. Alors, nous, pour honorer la fête des saints apôtres Pierre et Paul, nous allons écouter la Missa Tuus Petrus de Jean Mouton. Alors, cette messe est un petit peu remarquable parce que Jean Mouton a composé beaucoup de messes, il nous en reste 15 complètes, hein, avec des mouvements d'autres perdus par la suite. Et la Missa Tuus Petrus est la seule qui ne soit pas écrite à 4 voix, mais à 5 parties. Superius, Altus, Quinta Pars, qui contient le Cantus Firmus, c'est-à-dire le chant sur lequel s'établit tout le reste, Ténor et Bassus. Et alors la particularité, c'est qu'en général, lorsqu'on compose du contrepoint sur Cantus Firmus, sur chant ferme en fait, eh bien en principe, ce chant est au ténor ou à la basse, c'est-à-dire dans des tessitures graves. Et là, on a une originalité dans cette messe, c'est que le Cantus Firmus de la Quinta Pars, eh bien, est plutôt haut et parfois même passe au-dessus du Superius, ce qui est une particularité. Assez unique en fait dans la musique et dans le contrepoint de la Renaissance. Alors c'est une messe à 5 voix, mais certains passages vont être parfois plus resserrés. Il y a des passages à 4 voix, à 3 voix ou à 2 voix. Par exemple, le Christe est à 4 voix, le Benedictus à 2 voix, le Crucifixus à 4 voix. Et on imagine que ces passages-là sont faits par des solistes plutôt. Voilà. Alors, il y a une autre étrangeté dans cette œuvre. C'est que... L'Agnus Dei a une mention pour la partie de ténor indiquant qu'elle peut être chantée in diatessa saron, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois être chantée telle qu'elle est écrite ou une quarte plus haut. Donc là encore, c'est un beau jeu mathématique, acoustique et musical de composition qui montre l'habileté et la science de Jean Mouton. Alors cette Missa Tuus Petrus, on ignore pour quelle raison elle a été composée, mais on peut imaginer qu'elle a été offerte en hommage au pape de l'époque, qui est alors Léon X, grand amateur de musique. On va revenir sur ce point après l'avoir écouté. J'ai choisi de ne pas distinguer différentes pistes, mais de vous offrir en une seule écoute l'intégralité de la messe, qui comporte les mouvements habituels, Kyrie, Christe Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, le Benedictus et l'Agnus Dei. Écoutons donc maintenant cette Missa Tuus Petrus en l'honneur de Saint-Pierre. Elle est ici chantée et interprétée par l'ensemble The Brabant sous la direction de Stephen Rice, et c'est un disque Hyperion de 2012. Thank you.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous venons d'écouter l'intégralité de la Missa Tuus Petrus composée par Jean Mouton, chantre à la cour de Louis XII et de François Ier, et avant cela d'Anne de Bretagne, maître de chapelle de l'école franco-flamande, l'un des plus brillants compositeurs et des plus estimés de son temps, c'est-à-dire nous sommes à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Cette Missa Tuus Petrus, disais-je, probablement a pu être écrite en hommage au pape Léon X, grand amateur de musique, qui régna de 1513 à 1521, et qui avait nommé Jean Mouton comme notaire apostolique, ce qui est une belle fonction pour ce prêtre. Et on a plusieurs témoignages contemporains qui soulignent la haute estime dans laquelle le pape Léon tenait la musique de Jean Mouton. Et il y a un autre indice de l'activité musicale de Jean Mouton pour le pape Léon que nous allons écouter maintenant. Il s'agit d'un motet, Exultet con jubilando, qui est certainement issu de cette relation privilégiée entre Jean Mouton et Léon X, car ce texte très joyeux est composé sur deux cantus firmus. Un premier cantus firmus qui est le suivant, Pastor Ecclesiae Romanae ora pro nobis, autrement dit, berger de l'Église de Rome, prie pour nous. Et la deuxième partie est constituée sur un autre cantus firmus, Sine macula beatus Romanus, c'est-à-dire... Bienheureux Romain, sous-entendu le pape, a vécu sans péché dans le tabernacle de Dieu, in tabernacula Dei. C'est une magnifique et somptueuse écriture à huit voix qui, pour nos oreilles contemporaines, est peut-être un petit peu trop complexe, mais qui faisait les délices des auditeurs de cette époque-là, du début du XVIe siècle. Dans cette œuvre, Jean Mouton fait à la fois preuve d'hardiesse, puisqu'on a une composition à huit voix, ce qui est peu courant à son époque, mais aussi il va employer à la fois des éléments de modernité dans l'écriture et en même temps des éléments très archaïques, notamment avec une façon de mesurer qui est totalement passée de mode à son époque. En effet, il y avait une mensuration inhabituelle, pratiquement disparue vers 1475, qui faisait que la longue et la brève n'étaient pas dans le rapport de moitié, c'est-à-dire que normalement deux brèves valent une longue. Et en fait, dans certaines compositions issues de l'Ars Nova, eh bien, c'était plutôt dans un rapport d'un tiers, c'est-à-dire qu'une brève valait le tiers d'une longue. Donc il fallait trois brèves pour faire une longue. Et en fait, cette ancienne mensuration est utilisée ici avec subtilité par Jean Mouton et va lui servir pour faire des points d'appui rythmique très savants, longue-brève, dans cette composition à huit voix. On va donc écouter ce motet à huit voix, Exultet con jubilando, par les mêmes interprètes, ce Brabant Ensemble, sous la direction de Stephen Rice, un disque Hyperion de 2012. Nous venons d'écouter le motet Exultet Coniubilando, composé par Jean Mouton en l'honneur du pape Léon X. Et pour terminer ce programme autour de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, eh bien, nous allons finir par un motet de son disciple Adrien Villaert, maître de chapelle de Saint-Marc de Venise, Sancte Paule Apostole. Donc c'est bien sûr un motet à Saint Paul apôtre, interprété ici par des anglicans, des épiscopaliens plus exactement, d'Édimbourg. Avec ce motet d'Adrien Villaert, Sancte Paule Apostole que nous venons d'écouter, permettez-moi, chers auditeurs, de vous souhaiter une très belle solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour d'autres écoutes musicales et spirituelles.
Vous venez d'entendre Liturgie et musique sacrée, une émission proposée par Henri de Villiers, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 5 juillet 2026 de 15h à 16h et réalisée par Claudia.